Chapitre 2. Précisément, le vicomte était alors fort désœuvré. Son cœur, par hasard, était entièrement libre et sa tête tout à fait exempte de préoccupations. Il se trouvait donc dans d'excellentes dispositions pour se donner les émotions d'une chasse à l'homme. Malheureusement, il n'avait que des notions très confuses sur le métier de fileur. La pratique lui manquait absolument. Pour faire son apprentissage, il commença par le chapitre des informations. Un instinct vague le poussait à croire que le Sud-Américain Pontcorvo devait être, sinon l'auteur, au moins le complice de l'attaque nocturne si adroitement exécutée sur sa personne. Cette idée l'obsédait et il voulait avoir le dernier mot de cette énigme. Il fallait d'abord savoir au juste ce qu'était ce personnage. À première vue, la chose ne semblait pas très difficile. On ne tombe pas dans un cercle comme un aéroplanite, il faut y être présenté par quelqu'un. Servon s'enquit donc des parrains de M. de Pauxeron, et il apprit que l'un était le vice-président du cercle, gentilhomme de la bonne souche, et d'une moralité indiscutable. L'autre, Charles de Presset, se trouvait être l'un des camarades d'enfance du vicomte et le meilleur de ses amis. Henri alla le trouver et Charles lui apprit tout ce qu'il savait, c'est-à-dire fort peu de choses. L'année précédente, Presset avait entrepris un grand voyage en Orient où il avait rencontré M. de Pontcorvo, qui faisait aussi la tournée du Levant. Ils s'étaient associés pour traverser l'Asie mineure, visiter la Palestine, remonter le Nil jusqu'à la seconde cataracte, et dans ce voyage long et pénible, l'ami du vicomte avait eu maintes occasions d'apprécier les mérites de son compagnon de route. M. de Pontcorvo était aimable et instruit. Il savait une foule de langues et, entre autres, le turc et l'arabe, avantage précieux dans une excursion orientale. De plus, il paraissait fort riche et voyageait muni d'amples lettres de crédit. Il parlait du reste fort peu de ce qui le concernait personnellement. Presset savait cependant qu'il possédait une grande fortune grâce à la découverte d'une mine d'or située quelque part dans une île de l'océan Indien ou dans la cordillère des Andes, qu'il avait été élevé en Angleterre et qu'il était dans l'intention de se fixer en France. En arrivant à Paris, M. de Pontcorvo avait prié son compagnon de voyage de le présenter à son cercle. Celui-ci avait consenti volontiers et cela s'était fait avec le concours du vice-président qui, sans connaître l'Américain, s'en était pleinement rapporté au patronage de Presset. Depuis son admission, Pontcorvo avait mené la vie de tous les étrangers riches qui viennent se divertir en France. On le rencontrait un peu dans tous les mondes. Il allait beaucoup au théâtre et se montrait au bois dans des voitures bien tenues et bien attelées. Cependant, on devinait quelque chose de mystérieux dans ses allures. Personne n'avait pu pénétrer jusqu'ici dans son hôtel. Il connaissait tout Paris, le tout Paris des premières représentations et des courses, mais il ne voyait intimement aucun homme comme il faut. Ses renseignements sommaires donnaient pourtant si peu de prise aux soupçons que Servon se demanda d'abord s'il ne faisait pas fausse route. Il se décida néanmoins à pousser l'enquête plus loin et à s'attacher au pas de M. de Pontcorvo. Avant de tenter une entreprise assez ridicule en réalité et quelque peu dangereuse, il voulut d'abord apprendre à se déguiser, ce qui est l'ABC de la profession. Il avait assez couru le monde des théâtres pour connaître quelques acteurs, et il s'adressa à l'un d'eux, passé maître dans l'art de se grimer, sous le prétexte assez plausible de se mettre en état de jouer la comédie du Château. En quelques semaines, il a appris à se faire des sourcils et des rides, à changer la forme de son nez, à allonger sa bouche et à se déguiser les yeux. Il sut coller sur ses joues les barbes les plus variées et il acheta un assortiment complet de perruques. Se hasardant bientôt à sortir affublé de différents costumes, il ne fut pas trop mécontent de lui-même. Peu à peu, l'aplomb lui vint et il finit par prendre un si grand plaisir à cette existence, à la façon du prince Rodolphe des Mystères de Paris, que pour rien au monde il eût renoncé à son projet. Malgré tout le temps que lui prenait cette occupation, le vicomte ne changea ostensiblement rien à ses habitudes et surtout se montra au cercle régulièrement tous les soirs. Son professeur de déguisement avait mis une chambre à sa disposition. Il allait s'y habiller et, ses excursions achevées, il y venait reprendre ses vêtements ordinaires. Au bout de 2 mois, son éducation fut complète et il entra résolument en campagne. Monsieur de Pontcorvo habitait rue de Valois-du-Roule, un charmant petit hôtel entre cour et jardin. En face de la porte cochère, une boutique de marchand de vin, la seule qui s'ouvrit dans cette rue aristocratique, servait de lieu de rendez-vous à toute la livrée du quartier. La veille de Noël, par une belle matinée d'hiver, un grand gaillard qui avait la tournure d'un groom de bonne maison et qui n'était autre que le vicomte Henri, se présenta au comptoir du père Labriche et s'y fit servir un verre d'absinthe. Ce père Labriche, ex-valet de chambre d'un marquis, avait gardé de son ancienne profession un certain air de dignité qui contrastait singulièrement avec son métier de marchand de vin. D'ailleurs, grâce aux relations qu'il avait conservées dans les grandes maisons, il n'avait pas son pareil pour trouver une place au cuisinier sans emploi et au cocher en rupture de fouet. Aussi exerçait-il sur sa clientèle, presque exclusivement composée de domestiques, une influence incontestée. Cerveau s'était préalablement renseigné sur ce personnage et il espérait bien utiliser un homme qui connaissait tous les habitants de ce faubourg élégant, maître et valet. Jolie foi, monsieur Labriche, dit-il en saluant poliment le marchand de vin, qui de son comptoir avait fait un trône. Ah, il fait meilleur chez vous que sur un siège, les guides en main. C'est vrai, mon garçon, répondit le majestueux cabaretier en servant l'absinthe à ce consommateur inconnu. Mais il me semble qu'on ne vous voit pas souvent par ici, car je ne vous reconnais pas du tout. Antoine, monsieur Labriche, Antoine, de chez le marquis de Vence, qui demeurait rue de Marie, vous savez? Oh, ça m'étonne pas que vous ayez oublié ma figure. Oh, depuis la mort de mon mari, je voyage avec un Américain, et c'est la première fois depuis 3 ans que je mets les pieds dans le faubourg. Mais je voudrais bien m'y replacer, car ces Américains, voyez-vous, c'est pas un service pour un homme comme moi. Et si vous connaissiez une place, monsieur Labriche. Bon, pour avoir, mon garçon. Mais pour ce qui est des Américains, oh, vous avez joliment raison. Tenez, nous en avons un là, dans l'hôtel en face. On dit qu'il est riche à plusieurs millions, il n'a pas seulement un valet de chambre. Pas possible. Ouais, c'est comme je vous le dis. Il a un cocher, nègre, qu'il a amené de son pays de sauvage, et un ivrogne d'Irlandais qui lui sert de factotum. Mais on dit qu'il a 6 chevaux dans son écurie. Ah oui, ça c'est vrai. Aussi a-t-il en plus 2 grooms pour les soigner et 2 drôles de grooms. Allez, 2 grands coquins barbus que je voudrais pas rencontrer au coin d'un bois et qui parlent un baragouin que personne ne comprend. Je connais la couleur de leur argent. Ben, c'est toujours ça. Mais j'ai jamais vu la couleur de leurs paroles. Mais ce sont peut-être des muets, monsieur Labriche. Mais puisque je vous dis qu'il parle un baragouin, ah oui, c'est vrai. Ils viennent ici tous les soirs boire leur bouteille d'eau de vie. Et si vous voyez ça, vous penseriez comme moi qu'il y a quelque chose là-dessous. Ils entrent, ils paient d'avance, avalent chacun leurs 2 minutes de dur et filent par le bout de la rue. Mais où vont-ils donc comme ça, monsieur Labriche? Ah, voilà, je n'ai jamais pu savoir. Mais bien sûr, ils mènent une drôle de vie. Tenez, voilà 2 mois passés, il y en a un qui est rentré à moitié mort. Il n'est pas sorti de son écurie pendant plus de 3 semaines. Et c'est l'autre qui l'a soigné avec des remèdes de leur pays. Ils n'ont pas seulement voulu de médecin. Et quel pays, monsieur Labriche? Oh, pour ce qui est de ça, j'en sais rien. Et bien malin qu'il dirait. Mais vous tombez bien. Ah, les voilà qui sortent avec les 2 Algériens de Milord d'Amérique. Le prétendu groom se retourna vivement, regarda dans la rue. En effet, de l'hôtel Pancorbo sortaient 2 magnifiques chevaux de pure race, arabes, tenus en main par 2 individus d'un aspect effroyable. Vêtus de vestes d'écurie d'une coupe anglaise, ces singuliers grooms montraient sous leur toc à carreaux un visage anguleux, une peau tannée, bronzée, et des moustaches hérissées qui appelaient vaguement celles d'un tigre. Leurs personnes juraient avec leur costume. On eût dit 2 brigands calabrés en tout rivrés. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas bonne mine, dit le faux domestique. Mais c'est égal, ça m'intrigue tout ceci. J'y entrerai bien tout de même, moi, chez l'Américain. Hein, père Labriche, si vous entendiez dire qu'il se décide à prendre un valet de chambre, vous me donneriez bien un coup de main. Ça peut se faire, mon garçon. J'en parlerai à l'intendant, monsieur Paddy, comme il l'appelle, quand il viendra prendre son grog. Et si vous repassez par ici cette semaine... Bien sûr que je repasserai. Et ce jour-là, j'espère que vous me ferez l'amitié d'accepter une tournée. Pour aujourd'hui, je vais voir un pays de moi qui demeure au Terne. Je n'ai que le temps de filer. À votre santé, père Labriche. Merci, Antoine, et à votre service. Monsieur Antoine paya et sortit après avoir donné une poignée de main au respectable cabaretier. Ce que Servon venait d'apprendre n'était pas de nature à détruire ses soupçons. Les grooms de M. de Pontcorvo paraissaient n'être capables de détrousser les passants, et pour un homme aussi riche et aussi lancé dans le monde, le fait de n'avoir pas un seul Français à son service était au moins singulier. Le vicomte, ce jour-là, ne voulut pas pousser plus loin les informations. Il se borna à faire le tour de l'hôtel et il remarqua à un angle du jardin une petite porte basse qui donnait sur une ruelle déserte. Si le gentilhomme transatlantique était vraiment un chef de brigand, cette porte avait tout l'air de servir à ses sorties nocturnes. Servon se promit de surveiller cette issue et revint plus décidé que jamais à s'attacher au pas de M. Concorvo. Le lendemain de cette première reconnaissance, il se disposait à commencer le soir même des investigations sérieuses, quand la plus étrange hasard vint donner une nouvelle direction à ses recherches. Ce jour-là, vers 6 heures, le vicomte était au cercle où il comptait dîner. Pour être sûr de trouver une place à la grande table, il faut s'inscrire à l'avance sur un registre destiné à cet usage. Servon, engagé dans une interminable partie de whist et craignant d'être obligé de dîner seul, sonna un valet de chambre et l'envoya écrire son nom sur le livre. La partie terminée, il eut l'idée d'aller voir les noms des autres convives avec l'intention bien arrêtée de biffer son nom s'il apercevait celui de quelque fâcheux. Il examinait la liste d'un œil distrait quand, tout à coup, ses yeux furent frappés du caractère tout particulier de l'écriture avec laquelle on avait écrit son nom. Il la reconnut immédiatement. C'était celle de la lettre au billet de banque qu'il portait précisément dans sa poche et qu'il put comparer à loisir. Toute certitude était impossible. Le sauveur du vicomte de Servon était un valet de chambre du cercle. Le mystère se compliquait. À cette découverte, Servon sentit vaguement qu'il perdait toute trace. Aussi voulut-il trancher immédiatement la question. Il fit appeler le mystérieux domestique et l'examina avec une ardente curiosité. Il le regarda même si longtemps en face que l'homme finit par laisser percer un peu d'embarras. Mais il eut beau scruter sa figure et sa personne, rien ne vint réveiller ses souvenirs. L'homme était de taille moyenne, brun de teint, avec de gros favoris noirs, une vraie tête de valet de chambre de bonne maison. Servon lui dit à brûle-pourpoint : « Ah, c'est donc vous qui m'avez écrit cette lettre ?» Et en même temps, il tirait l'enveloppe de sa poche et la lui montrait. Le domestique examina un instant et répondit, sans se troubler, oui, que cette écriture ressemblait en effet à la sienne, mais qu'elle n'était pas de lui. Et il ajouta, en tâchant d'être à la fois bête et respectueux, et pourquoi me serais-je permis d'écrire à monsieur le vicomte ? Servon fut tenté un instant de continuer l'interrogatoire, mais il sentit tout le ridicule de la situation, et il y coupa court d'un geste. L'homme se retira sans ajouter un mot. L'affaire s'embrouillait de plus en plus. Servon monta chez le gérant du cercle, et, feignant d'avoir besoin d'un valet de chambre, il prétendit avoir remarqué celui-là et s'enquit de ses antécédents. « Oh, c'est, dit le gérant, un de nos meilleurs domestiques. Il est exact, honnête et zélé. Oh, son seul défaut est d'avoir une figure triste qui déplaît à ses messieurs. Monsieur de Pontcorvo s'en priait encore hier. Il prétend qu'il lui porte malheur au jeu. Et depuis quand est-il au cercle ? Oh, depuis moins d'un an, il est entré avec de très bons certificats. Il a presque toujours servi chez des étrangers, et il parle plusieurs langues. Quel âge a-t-il ? Oh, une saison juste, et j'avoue, ajouta-t-il, que je le regretterais beaucoup si vous nous l'enlevez. » Servon apprit de plus que ce valet de chambre énigmatique se nommait l'Oiseau, qu'il n'était pas marié et qu'il habitait seul à un petit logement d'une rue voisine. Avec tous ces renseignements, il n'était pas beaucoup plus avancé. Cependant, il ne se tint pas pour battu, et il arriva à saisir quelques points saillants au milieu de ce chaos. Que la lettre eût été écrite par M. Loiseau, cela ne faisait guère de doute. Seulement, il n'avait pu servir de secrétaire à quelqu'un. Mais il était évident qu'il connaissait la valeur de ses projets et que tous deux faisaient partie du cercle. En admettant que ce voleur fût le Pontcorvo, il fallait découvrir entre lui et le valet de chambre un rapport, un trait d'union quelconque, pour expliquer leur association. Servon fut frappé alors de certaines coïncidences. Tous deux étaient entrés au cercle à peu près à la même époque. Tous deux avaient longtemps habité l'étranger. Tous deux parlaient plusieurs langues. Il se pouvait que le valet eût été placé là par l'influence occulte de Pontcorvo, dans un but facile à deviner, pour le renseigner sur les habitudes des joueurs, sur leurs gains, sur l'argent qu'ils portaient habituellement dans leur poche, toutes choses que les domestiques savent mieux que personne. Restait encore à expliquer comment le vicomte pouvait avoir des droits à la reconnaissance de l'un de ces coquins, mais il n'avait pas la prétention de tout deviner du premier coup. Les renseignements du gérant étaient exacts. Monsieur Loiseau demeurait rue de la Michaudière, 42, au cinquième étage. Une portière bavarde apprit à Servon, moyennant un louis, que son locataire menait une vie très rangée. Il payait exactement son terme, ne recevait jamais de visite, et n'était guère chez lui que pour dormir, le matin, après avoir fait au cercle son service de nuit. La compatissante concierge s'apitoya même sur la dure condition des domestiques du club, obligés de passer ainsi toutes les nuits, car elle affirma que le pauvre monsieur Loiseau ne rentrait jamais avant le jour. Muni de ces informations, Servon s'enquit au cercle de la façon dont le service était organisé, et il apprit que les valets de chambre ne passaient qu'une nuit sur trois. Si Loiseau découchait quotidiennement, c'est que sans doute il avait ailleurs l'emploi de ses nuits. Décidé comme il l'était à tout faire pour atteindre son but, le vicomte n'avait plus qu'un parti à prendre, s'attacher à ce valet comme un limier s'attache aux traces d'un cerf. Grâce aux leçons de son acteur et à ses premiers essais autour de l'hôtel de Pancorvo, il se sentait de force à se déguiser assez bien pour ne pas être reconnu. Il avait même acquis une pratique suffisante de ce qu'on appelle en termes de police le filage, c'est-à-dire qu'il savait suivre quelqu'un sans se faire remarquer. 2 jours après, Servon, transformé en fort de la Halle, était assis en face du cercle, sur un banc du boulevard. Il était enchanté de son costume, qui comportait un grand chapeau rabattu, très commode pour cacher la figure, et un bâton pouvant servir au besoin d'arme défensive. Il fumait une pipe, courte, convenablement culottée, et il avait fourré une serviette sous le collet de sa veste pour se faire les épaules hautes à la façon des portefaix. Son plus intime ami ne l'aurait certainement pas reconnu. Il avait déjà vu entrer au cercle nombre de gentilshommes de sa connaissance, qui n'avaient pas pris garde à lui, et il était tout à fait rassuré sur la personne perfection de son déguisement. Minuit sonnait, si tant est que minuit sonne sur le boulevard, quand M. Loiseau parut. Loiseau avait quitté sa livrée pour endosser un paletot marron qui lui donnait l'air d'un petit rentier du marais. Toute son allure avait quelque chose de modeste et d'honnête, à ce point que le vicomte eut peur un instant de s'être trompé. Mais il avait franchi le Rubicon et il était décidé à pousser l'aventure jusqu'au bout. Il laissa donc M. Loiseau prendre une 20aine de pas d'avance. C'est la bonne distance pour voir sans être vu, et il commença à le suivre du pas lourd et avec le dandinement obligé de son personnage. Servon était fort content du talent avec lequel il jouait son rôle. Mais un nuage passa sur sa joie quand il vit que l'homme, au lieu de se diriger vers le faubourg Saint-Honoré, où il espérait le voir entrer chez M. de Pontcorvo, prenait un chemin tout opposé. Loiseau, en effet, quittant le boulevard, se mit à remonter la rue de la Chaussée-d'Antin. Il marchait d'un pas égal, sans se presser, sans regarder les passants. C'était l'allure d'un homme préoccupé qui suit son chemin habituel. Servon avait encore l'espoir qu'il tournerait par la rue Saint-Lazare pour gagner le faubourg Saint-Honoré, mais il perdit bientôt cette illusion. Monsieur Loiseau prit la rue Blanche, remonta à la rue Pigalle dans toute sa longueur, et finit par arriver à la barrière qu'il franchit sans hésiter. Sur le boulevard extérieur, il prit à droite et s'engagea bientôt dans une rue étroite et escarpée qui grimpait sur la butte Montmartre. Il ne se doutait pas qu'on le suivait. la tête basse, comme affaissé sous le poids d'une douleur ou d'un crime, l'homme allait sans se retourner. Il se préoccupait évidemment fort peu d'être suivi, ou du moins ne s'en doutait pas. Tout à coup, Servon le perdit de vue. Il venait de disparaître au sommet d'un escalier très raide qui terminait la rue. Mais le vicomte escalada lentement les marches usées de cette espèce d'échelle et l'aperçut de nouveau. Cette fois, M. Loiseau était arrêté devant la grille d'un jardin. Il regardait de tous côtés avec une physionomie inquiète et tenait à la main une clé qu'il s'apprêtait à introduire dans la serrure. Le vicomte entendit le bruit d'une porte qui se ferme et il avança avec précaution. Il se trouvait dans une rue parallèle au boulevard, formant par conséquent une sorte de corniche sur la butte Montmartre, au contraire des autres voies de ce quartier qui montent presque toutes vers le sommet. Cette rue, bordée à gauche par quelques rares maisons, était longée du côté droit par un mur assez bas, au-dessus duquel on distinguait les grands arbres d'un jardin planté en amphithéâtre. Au milieu de ce mur, une grille en bois servait d'entrée, et M. Loiseau venait de la franchir. Était-il chez lui? Venait-il de s'introduire là pour commettre un crime? Servon se dit en effet que Loiseau n'avait pas besoin d'aller chez Pancorvo pour prendre ses ordres, puisque l'Américain venait chaque soir au cercle. La nuit était trop obscure pour qu'il fût possible de voir où menait ce jardin. Mais Servon pensa qu'il devait appartenir à une maison construite au point culminant de la butte. Une lumière qui brilla bientôt au-dessus des arbres lui apprit qu'il ne s'était pas trompé. Le valet de chambre avait donc un domicile occulte, et certes, le lien était bien choisi pour y accomplir une œuvre ténébreuse. C'était lugubre et mystérieux. Fort satisfait de cette première découverte, Servon attendit 2 heures environ pour prêter main forte en cas de crime, mais la maison resta noire, funèbre et silencieuse. Il descendit à Paris après avoir bien remarqué la place, alla changer de costume et eut soin de se montrer au cercle avant de rentrer chez lui. Le lendemain, dans l'après-midi, sans se déguiser cette fois, le vicomte partit en reconnaissance. Il savait que Loiseau devait reprendre son service à midi et il était sûr de ne pas être gêné dans ses observations. Ce fut sans peine qu'il retrouva l'escalier et la rue déserte, qu'il reconnut la porte du jardin où l'homme avait disparu. La grille en bois à moitié pourrie semblait tenir à peine debout. À travers ces barreaux disjoints, on voyait une sorte de voûte en rocaille du goût le plus détestable. Mais au-dessus de cette niche prétentieuse, on ne distinguait plus rien qu'un fouillis inextricable de plantes grimpantes et de broussailles qui donnait à ce lieu l'aspect d'un maquis de la Corse. Aimable théâtre pour des scènes de meurtre. De se hallier s'élançaient de grands arbres qui avaient dû jadis former des allées disparues peu à peu sous les ronces. Plus haut encore que cette forêt vierge, Servon aperçut, non sans peine, une maison aussi singulière que le jardin. Elle ressemblait parfaitement à une tour, et même à la tour penchée de Pise, car elle avait fortement dévié de son aplomb. Cette construction bizarre, reléguée dans l'angle gauche de l'enclos, montrait un rez-de-chaussée de plein pied, avec le sol du jardin, un premier étage auquel on devait accéder par une terrasse, et un second qui dominait presque la cime des arbres. Chaque étage était percé d'une seule fenêtre, et la maison entièrement bâtie en briques semblait prête à s'écrouler, moins par vétusté que par abandon. C'était une jeune ruine, la plus laide chose du monde. Le vicomte se demandait quel bourgeois ridicule avait eu l'idée de planter cette contrefaçon de l'obélisque au milieu de ces vieux arbres qui auraient si bien accompagné un château dans le goût du XVIIe siècle. Mais il n'était pas venu là pour se livrer à des études d'architecture, et il commença à faire le tour de la place. L'escalier qu'il avait amené devant la grille en bois continuait à monter sur le côté droit du jardin, dont il était séparé par un mur fort dégradé. Il grimpa par ce chemin assez difficile, et il trouva, à mi-hauteur à peu près, une autre porte en bois, aussi vermoulue que la première, et qui de plus paraissait condamnée, car un vigoureux noisetier la cachait presque en entier. Il continua son ascension et déboucha enfin sur une petite place carrée au bout de laquelle il aperçut la vieille église de Montmartre. Là, le mur du jardin tournait brusquement à gauche et cachait entièrement la maison. Une porte pleine, en meilleur état que les autres, s'ouvrait au milieu de ce mur. La chaîne en fer qui pendait à côté devait se rattacher à une sonnette et indiquer l'entrée officielle de cet étrange domicile. La petite place était déserte et Servon put examiner et réfléchir tout à son aise. Il se rendait très bien compte de la topographie de la belle au bois dormant, mais il n'en était pas beaucoup plus avancé, car il se dit qu'il fallait payer d'audace. Bien sûr que l'oiseau n'était pas chez lui, mais il se hasarda à sonner. Un bruit de cloche fêlée se fit entendre, mais personne ne répondit. Il recommença deux ou trois fois. La maison garda un silence sépulcral. Seulement, le vacarme attira sur le pas d'une porte voisine une vieille dame sordide et affreusement ridée, qui dit d'une voix chevrotante « Il n'y a personne, il n'y a personne !» Servon saisit l'occasion et lui demanda si ce n'était pas là qu'habitait M. Loiseau. « Ne connais pas, il n'y a pas de l'oiseau. »« Pas d'oiseau !» grommela la sorcière. Et elle rentra dans son bouge avec la prestesse mécanique d'un coucou dans une horloge en bois de la forêt noire. Tout cela prenait des allures fantastiques. Le vicomte s'éloignait, assez déconcerté, quand il avisa, sur un banc de la place, un bourgeois d'apparence respectable qui se chauffait au soleil. Tout doucement, il alla s'asseoir à côté de lui. Il engagea la conversation par quelques mots sur la vue qui était magnifique. Servon était tombé justement sur une sorte de Joseph Prud'homme qui s'empressa de lui expliquer d'un ton solennel que l'air était beaucoup plus pur à Montmartre qu'à Paris, fait d'un intérêt douteux en ce moment. Le jeune homme écouta patiemment ces phrases d'almanach pour arriver, par une transition à droite, à demander pourquoi le jardin qui s'étendait à ses pieds restait ainsi abandonné. « Monsieur, dit le naturel de Montmartre en enflant sa voix, voilà 15 ans que j'habite la localité, j'ai toujours vu cette propriété comme vous pouvez la voir au jour d'aujourd'hui. Me suis laissé raconter qu'elle appartenait à un étranger, puis savant riche qui habite les colonies. On dit même qu'il s'y est commis autrefois un crime très conséquent et que la nuit, on y voit des revenants. Mais monsieur est comme moi trop éclairé pour ajouter foi à de pareilles histoires. Certes, oui, interrompit Servon. Mais je croyais que maintenant la maison était habitée. Elle est en effet, monsieur, depuis 6 mois, par le régisseur du propriétaire, Il est revenu des îles l'été dernier, mais on ne le voit guère. Le connaissez-vous ? Non, c'est un homme qui passe toutes ses journées et même ses soirées à Paris. Et ne visite-t-il personne ? Non, je ne pense pas. Croiriez-vous, monsieur, qu'il n'a jamais mis le pied au café des Acacias, où se réunit la meilleure société de Montmartre ? Mais cela n'est évidemment pas d'un homme de goût, dit Servan en souriant. Mais que pensez-vous de cette obstination à ne pas fréquenter ses voisins ? Bon, je trouve que c'est pas naturel, et je serais porté à croire que ce monsieur est de la police. Ah, vraiment ? Servon caressa quelque temps la marotte de ce vénérable imbécile, dans l'espoir d'en tirer des informations un peu plus claires. Mais l'habitant de Montmartre ne lui apprit rien de plus, pour la bonne raison qu'il ne savait rien. Le vicomte rentra de son expédition un peu plus intrigué, mais pas mieux renseigné sur M. Loiseau. Il résultait cependant de cette première enquête que ce personnage énigmatique menait une existence de mystère, et que ce mystère devait avoir une cause. Mais cette cause était précisément l'inconnu qu'il fallait dégager. Le problème empoignait Servon de plus en plus, comme on dit en style d'auteur dramatique. Il finit par n'avoir pas d'autre chose en tête et se dit qu'il arriverait bien à le résoudre comme Newton trouva la loi de la gravitation en y pensant toujours. De plus en plus assidu au cercle, dans le seul but d'observer M. de Pancorvo et Loiseau, il ne perdit pas un geste, pas un tressaillement des deux hommes qu'il observait. M. de Pancorvo laissa échapper parfois des paroles compromettantes, mais M. Loiseau fut impénétrable. En tout cas, si ces deux hommes se connaissaient, ils jouaient bien leur rôle, car il était impossible de surprendre entre eux le plus léger signe d'intelligence. Le valet de chambre faisait toujours son service avec un zèle exemplaire, et M. de Pancorvo continuait à se montrer beau joueur, ce qui lui était d'autant plus facile qu'il gagnait presque toujours. Depuis l'attaque dont le vicomte avait été victime, il n'était rien arrivé de fâcheux aux joueurs, au moins dans la rue, car du reste, on avait dévalisé l'appartement d'un brave angevin qui était venu passer son hiver à Paris et qui avait fait de faux bénéfices à la grosse partie. Entrer chez lui à l'aide de fausses clés pendant qu'il se livrait au cercle un baccarat acharné, les voleurs avaient forcé à vider le meuble où il enfermait sa bourse du jeu, très ronde en ce moment-là. Le provincial se plaignit très haut, l'affaire fit un bruit énorme qui donna lieu à toutes sortes de commentaires. Servan ne crut pas devoir se mêler aux bavards qui causaient sur ce sujet, mais il acquit la certitude que pendant la nuit du vol, M. de Pancorvo n'était pas au cercle. Le vicomte fut du reste seul à constater le fait, car ce noble étranger comptait beaucoup d'amis et passait pour un parfait gentleman. Servon tournait décidément à la manie, comme tous ceux qui sont persuadés d'une idée fixe. Il fit tous ses efforts pour chasser cette préoccupation obstinée, mais il n'arriva qu'à une sorte de transaction entre la curiosité qui le poussait et le bon sens qui lui était naturel. Il se jura donc solennellement de ne plus y penser si, après une dernière tentative, il n'avait pas trouvé le mot de l'énigme. Servon avait remarqué qu'il ne serait pas difficile de s'introduire dans le jardin de Montmartre par la porte latérale qui donnait sur l'escalier, et il pensa qu'une fois dans la place, il trouverait bien le moyen d'observer l'ennemi de près. Il résolut donc de ne pas différer cette expédition décisive, et il se promit bien quelle serait la dernière. Pour cette expédition décisive, Servon choisit le costume de rôdeur de barrière. Il endossa une blouse sale, Il se coiffa d'une ignoble casquette et d'une perruque ornée de superbes accroche-cœurs collés sur les tempes. Quand le vicomte fut ainsi habillé, il s'admira lui-même, mais il fit une réflexion assez triste. Quelques haillons et une coiffure de voyou suffisaient pour changer l'homme le plus distingué en crapuleux goujat. Servon choisit une nuit où l'oiseau n'était pas de service au cercle, et il ne se mit en route qu'à minuit passé, n'ayant pas besoin cette fois de suivre la piste. Mieux valait au contraire laisser à l'homme le temps de s'installer dans son étrange domicile, afin d'y observer tout à son aise. Par quel moyen ? Bon, le vicomte n'en savait rien encore en s'acheminant vers Montmartre. Le temps, ce soir-là, semblait choisi tout exprès pour une entreprise ténébreuse. Une de ces terribles bourrasques qui nous arrivent parfois de l'Atlantique passait sur Paris. D'épouvantables rafales ébranlaient les toitures et une pluie serrée fouettait les vitres des maisons. Les rares passants attardés dans les rues marchaient courbés sous l'ouragan et rasaient les murailles pour éviter les tuiles qui volaient de tous côtés. Des pans de cheminées s'écroulaient çà et là avec un fracas horrible. C'était lugubre. Servon se demanda si ce cataclysme n'était pas un avertissement du ciel, et il eut à un instant l'idée de rebrousser chemin, mais il se dit qu'après tout, il en serait quitte pour un bain forcé, qu'une pareille nuit écarterait sûrement les curieux importuns, et que la tempête favoriserait son œuvre nocturne. Il continua donc à monter bravement vers Montmartre, les coudes au corps et la tête basse, malgré l'averse qui lui arrivait du nord-ouest, comme un navire qui marche debout au vent. Dans toute la longueur de la rue Pigalle, il ne rencontra pas une âme, et il passa la barrière sans apercevoir les commis de l'octroi soigneusement abrités dans leur guérite. Sur le boulevard extérieur, Servon eut beaucoup de peine à se diriger à la lueur vacillante des réverbères que le vent balançait avec un bruit aigre sur leurs chaînes rouillées, et il faillit s'embourber dans des fondrières qui lui rappelaient à la porte de Paris les chemins creux de la Bretagne. Après une ascension des plus pénibles, le vicomte se trouva, vers 1 heure du matin, devant la grille du jardin, et une lumière assez vive qui brillait au-dessus des arbres lui fit penser qu'il arrivait au bon moment. Sans perdre de temps, il tenta l'escalade et atteignit, sans trop de peine, les branches de noisetier qui faisaient corps avec la porte. Puis, s'enlevant à la force du poignet, en 2 efforts, il se trouva dans le jardin, sans autre dommage qu'un fort accroc à son pantalon. Mais ce n'était là que la partie la plus aisée de l'entreprise. Il fallait se diriger au milieu d'un véritable bois taillé et s'approcher de la maison sans trahir sa présence. Heureusement, le fracas de la tempête qui secouait rudement les grands arbres couvrait le bruit des branches que Servan brisait en marchant. Il avançait à pas de loup, les bras tendus en avant comme un aveugle, et se déchirant les mains aux épines de ce hallier. Mais un Breton habitué à chasser au bois pouvait mépriser ses inconvénients. Après un grand quart d'heure d'un véritable travail de pionnier, il déboucha dans une allée assez large et vit, en levant la tête, qu'il était précisément au pied de la maison. Le rez-de-chaussée, le premier étage, restait sombre, mais l'unique fenêtre du second était éclairée. Surpris d'abord que l'oiseau n'eût pas clos hermétiquement ses volets, Servon réfléchit que l'homme à la lettre devait croire cette précaution tout à fait inutile. En effet, la tour mystérieuse dominait à une telle hauteur toutes les maisons de la rue Mars qu'un voyageur en ballon aurait seul pu plonger dans l'intérieur. Cette lumière, d'ailleurs, pouvait être un signal. Mais la disposition des lieux compliquait beaucoup la difficulté, et le vicomte courait grand risque d'être venu pour rien. Il se creusait la tête afin de découvrir un observatoire, quand un grand arbre auquel il se heurta dans l'obscurité lui donna une idée. Cerveau, élevé à la campagne, était dans sa jeunesse d'une assez jolie force pour dénicher les pies, et il ne se sentait pas encore trop rouillé. Du reste, il n'y avait pas à hésiter. Il fallait grimper à l'arbre ou s'en aller bredouille. Le vicomte fit le sacrifice de son pantalon et même de sa peau, peu habituée au rude contact de l'écorce d'un ormeau. Il empoigna le tronc avec une ardeur de 20 ans. L'ascension fut longue et pénible, et les mains lui cuisaient bien fort quand il put s'asseoir assez commodément sur la fourche la plus élevée de l'arbre. Il avait entre les jambes une maîtresse branche assez forte pour porter un rhinocéros, et derrière lui, en guise de dossier, le tronc principal de l'ormeau. 15 pas tout au plus séparaient l'arbre de la maison, et Cerveau était penché un peu plus haut que la fenêtre. Enfin, il allait voir. Le spectacle que ses yeux découvrirent en plongeant dans l'intérieur dépassait en étrangeté tout ce que son imagination avait jamais pu rêver. La chambre était éclairée par une lampe suspendue au plafond, et la lumière retombait très vivement sur les murs qui étaient entièrement tendus de noir. Au milieu de ce lieu sépulcral, un homme était à genoux et semblait prier. Devant lui se dressait un objet que Cerveau eut assez de peine à reconnaître et qu'il prit d'abord pour un autre homme debout contre la muraille. Il vit ensuite que c'était une armure de chevalier. Le cimier d'un casque de forme étrange brillait sous la lampe. La cuirasse et les cuissards, moins vivement éclairés, paraissaient plus ternes, mais c'était bien un harnais de guerre du Moyen-Âge devant lequel M. Loiseau était prosterné. À ce spectacle inattendu, le vicomte tomba dans une stupéfaction profonde. Quel pouvait être le culte auquel se livrait ainsi, en plein Paris, ce singulier personnage? Adorait-il donc un fétiche, comme les nègres de la côte d'Afrique? Cervon avait beau chercher, il ne trouvait rien. Il était confondu, abasourdi. Il y avait bien une explication, si on admettait que l'oiseau était devenu fou. Mais ce parfait domestique n'avait jamais donné le moindre signe d'aliénation mentale. Cela devenait prodigieux. Le vicomte, perdu dans ses réflexions, regardait de tous ses yeux cet étrange adorateur des armures, quand son attention fut attirée d'un autre côté. Malgré les rafales qui secouaient avec fureur l'arbre où il était penché, Cerveau crut distinguer le bruit d'une porte tournant sur des gonds rouillés. Ce bruit venait d'en bas, du côté de la rue qui passait au pied du jardin. Bientôt le doute fut impossible. 2 hommes montaient la pente, marchant d'un pas lent et égal. Cerveau, bien sûr de rester invisible, se pencha pour regarder au-dessous de lui. Mais la nuit était si noire qu'il distingua seulement 2 formes se dirigeant vers la maison. Son émotion était telle qu'il retenait son souffle comme si les inconnus eussent pu l'entendre. Les nouveaux arrivants passèrent si près qu'ils disparurent dans l'ombre projetée par la tour et que le vicomte cessa de les voir, mais presque aussitôt, Il entendit le bruit sec et sonore de trois coups frappés contre la porte du rez-de-chaussée. L'effet de cet appel fut immédiat. On ferma les volets du second étage et la lumière disparut. « Qui est là ?» demanda de l'intérieur une voix qu'on distinguait à peine. L'un des visiteurs répondit et Servon entendit prononcer un nom à terminaison anglaise comme Parker ou Palmer. Ce nom n'apprenait rien au vicomte, mais il lui semblait bien que la voix ne lui était pas inconnue. Son incertitude ne fut pas longue. La porte s'ouvrit, un homme parut sur le seuil, et la lumière qu'il tenait à la main, donnant en plein sur le visage de l'étranger, éclaira les traits de Monsieur de Pancorvo. Le vicomte ne s'était donc pas trompé. Le valet de chambre et le noble étranger se connaissaient. Toutes ses conjectures se trouvaient justifiées et il se sentait fier de sa perspicacité persévérante. Christophe Colomb dut éprouver quelque chose de semblable quand il aperçut la terre d'Amérique. Les deux visiteurs entrèrent et la porte se referma derrière eux. La toile tombait au moment le plus intéressant du spectacle, car la porte du rez-de-chaussée était doublée de volets épais qui laissaient à peine filtrer un faible rayon de lumière, et du haut de son observatoire, Servon n'avait plus rien à observer. Quand il eut bien constaté que le conciliabule se tenait hors de la portée de ses yeux, il se décida à descendre, d'autant plus volontiers que sa situation aérienne commençait à lui paraître incommode. Dès qu'il eut pris terre, sa première pensée fut d'aller se coller contre la maison et de tâcher d'entendre la conversation. Mais ce qui prouve une fois de plus la toute-puissance des mots sur l'esprit humain, cette action d'écouter aux portes lui répugna. Depuis bien des heures et même depuis bien des jours, Servon ne faisait pas autre chose, mais la forme déguisait le fond. Cette fois, il fut pris d'un tel scrupule qu'il se décida à battre en retraite. D'ailleurs, il en avait bien vu assez. Monsieur de Pancorvo était en relation intime avec un valet de chambre. La constatation de ce rapprochement suffisait pour mettre Servon en garde contre ces deux coquins, car maintenant il les tenait bien pour tels. Quant à se charger d'en purger la terre, cette mission ne lui convenait pas du tout. Ses courtes réflexions faites, il se dirigea vers la grille et y arriva sans encombre. Mais sa dernière escalade ne fut pas heureuse. Le pied lui manqua au plus fort de son ascension et tomba rudement sur la première marche de l'escalier. Le plus fâcheux de cette chute fut que le pauvre vicomte se fit beaucoup de mal. Près de la grille, on avait placé jadis un décroisoire en fer destiné à gratter les bottes des visiteurs, une sage précaution dans ce quartier boueux. Sa tête porta contre cette lame très tranchante encore, quoique très rouillée, il se fit une profonde coupure au front. Quand Servon se releva tout étourdi du coup, il saignait abondamment et la perspective de rester balafré à tout jamais, lui inspira des réflexions peu gaies. Il maudit 100 fois cette sotte curiosité qu'il avait conduit dans ce repaire, et il reprit tout confus et tout meurtri le chemin de Paris. La tempête s'était un peu calmée, mais la nuit était encore noire et pluvieuse, et Servon, fort heureusement, ne rencontra personne. Déchiré et ensanglanté comme il l'était, le premier sergent de ville eut certainement conduit au poste. Le vicomte put rentrer chez son ami sans être vu et jeter ses guenilles toutes souillées de boue et de sang. Il avait hâte de rentrer dans l'enveloppe d'un honnête homme. Une heure après, Servon était chez lui, au coin d'un bon feu, se bassinant le front et jurant un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus, à aller sur les brisés de Dame Police.